voici quelques livres de la collection Les Belles Histoires, série bleue, Bayard Poche, Bayard Édition. La première histoire s'appelle Désirée. Elle a été écrite par Bénédicte Laferté, L-A-F-E-R-T-E, accent aigu. Paris, 1993. Dans la famille Dupont-Martin, il y a Tanzita. Papa et maman Dupont-Martin et les enfants Vivette et Odilon. Tanzita adore faire la cuisine. Tous les jours, elle invente un nouveau plat. Le poulet fourré à la praline, le potage de pamplemousse ou même la crème de pistache à la sauce bonbon. Papa travaille dans une grande tour, loin de la maison. Le soir, pour oublier ses soucis, il regarde les étoiles dans sa lunette télescopique. Tu demanderas à ton papa ce que ça veut dire. Il dit, en appelant les étoiles par leur nom, « Tiens, Cassiopée est bien là. Orion est à droite et Pégase est derrière. C'est bon. » Et il va se coucher. Maman a la passion des laines et des tissus. Ses poches sont bourrées de bobines et elle tricote, elle rafistole pour tous les Dupont-Martin. Dans toutes les pièces, elle sème des bouts de fil et des aiguilles pendant que son aspirateur s'ennuie dans un placard tout noir. Vivette, la fille, elle est née des deux enfants. Elle dit toujours « Quand je serai grande, je serai acrobate. » Lorsqu'elle rentre de l'école, elle ne marche que sur les murs des jardins et à chaque portail, elle fait le cochon pendu. Odilon, son frère, est le savant de la famille. Il réfléchit beaucoup en tortillant une mèche de cheveux entre ses doigts. Le soir, il ressemble à Tintin. Quand il fait ses devoirs, personne ne doit le déranger. Et si par hasard, Pampan le chien vient lui lécher les mollets, il lui crie « Bon les pattes, toutou, va ronger ton os et fiche-moi la paix !» Tout va bien chez les Dupont-Martin jusqu'au jour où maman annonce qu'elle va avoir un bébé. Tout le monde s'embrasse et dit « Un bébé, quelle merveille !» Tanzita fait un gros gâteau et on boit du sirop de jaja. Mais après la fête, maman dit « Dans quelques mois, le bébé sera là et il va falloir que chacun fasse un effort. Papa donnera le biberon du soir. Tanzita apprendra à faire de simples bouillies et des purées de tapioca. Toi, Odilon, tu partageras ta chambre avec Vivette. Et toi, Vivette, tu ne traîneras plus en rentrant de l'école car tu promèneras le bébé après ton goûter. Et moi, je sortirai l'aspirateur plus souvent car les bouts de fil et les aiguilles, ça n'est pas bon du tout pour un bébé. » Lorsque maman a fini de parler, on entend un immense soupir, ou plutôt quatre soupirs. Un bébé dans ces conditions. « Quel travail !» pense Tanzita. « Un bébé dans ces conditions, quel tracas !» se dit papa. « Un bébé dans ces conditions, quelle poisse !» pense Vivette et Odilon. Puisque Vivette va maintenant partager sa chambre, Odilon se prépare à l'attaque. Autour de son bureau, il construit des murs de dictionnaires et dans ses tiroirs secrets, il installe des sonneries d'alarme. Il se dit « Si Vivette fourre son nez dans mes affaires, toutes les sonnettes se mettront en marche. » les semaines et les mois passent jusqu'au jour où le bébé arrive. C'est un garçon. Comme les Dupont-Martin n'ont pas réussi à se mettre d'accord sur un prénom, sa maman décide de l'appeler Désiré. Avec Désiré, les grands chambardements commencent. Tante Zita, qui n'aime pas faire de simples bouillies, s'énerve et les laisse toutes brûler. Papa essaye de regarder les étoiles tout en donnant le biberon et Désiré manque de s'étouffer et il attrape un hoquet qui dure plusieurs jours. Vivette promène le bébé à toute allure pour retourner plus vite faire ses acrobaties. Dans la rue, elle pousse le landau en courant, elle dépasse les trottinettes et les bicyclettes, elle rentre tout essoufflée en disant « Ça y est, Désiré a pris l'air !» Quant à Odilon, il déclare « J'en ai assez du bruit de Vivette et de ses acrobaties qui font trembler les murs !» Il prend l'habitude de se bourrer les oreilles de coton-tige. Il ressemble maintenant à un extraterrestre. Il n'y a que maman qui a trouvé une solution. Elle met Désiré dans un grand sac qu'elle accroche sur son dos. Et elle continue à vivre dans ses laines et ses tissus. Elle chante en tricotant des culottes, des bonnets et des écharpes, et le bébé gazouille dans son dos. Elle dit à tous les Dupont-Martin « Arrêtez de ronchonner, vous verrez, bientôt vous ne pourrez plus vous passer de Désiré. » Et maman a raison. Bientôt Désiré est capable de tenir son biberon tout seul. Le soir, papa l'installe à côté de lui et il lui raconte tout ce qu'il voit dans sa lunette télescopique. Papa dit « Plus tard, « je lui apprendrai les noms des étoiles. Il regardera la lune dans ma lunette télescopique. Désiré sera un grand astronome comme le grand-père de ton grand-père. » Un jour, Tante Zita crie dans toute la maison « Désiré a une dent ! Désiré, il a une dent ! Il a une dent ! Désiré !» Et le soir même, elle invente des purées extraordinaires. Elle ajoute un petit pois, du jus de persil, et elle gratte des pointes de radis. Ces purées ont de jolies couleurs et Désiré se lèche les babines et même se les pourlèche. Odilon se passionne lui aussi pour Désiré. Il l'observe et il se met à faire de savants calculs. Il écrit: si un bébé doit être changé 5 fois par jour, il lui faut 35 couches par semaine. Au bout d'un mois, il en a utilisé 150 et au bout d'un an, 1800. Fantastique ! Il y a de quoi remplir une camionnette. Il calcule ainsi des tas de choses. Vivette, elle, trouve chez Désiré un modèle parfait pour apprendre de nouvelles acrobaties. Elle se met à côté de lui et elle l'imite. Oh, elle met longtemps avant d'arriver à se gratter l'oreille avec ses doigts de pied, mais elle apprend très vite à se tordre dans tous les sens, comme Désiré dans son parc. Quand Désiré a 1 an, les Dupont-Martin lui font une grande fête. Vivette lui apprend à faire sa première galipette et Odilon lui annonce qu'il a déjà mangé 183 kilos de purée. « Burk !» répond Désiré. Et on l'embrasse si fort, si fort, si fort, que ses joues deviennent toutes rouges. Et quand après la fête, maman dit qu'elle attend un autre bébé, Tous les Dupont-Martin s'embrassent encore. Et il s'écrie, on sait, il va falloir que chacun fasse un effort. La deuxième histoire, publiée en 1990, est de Giorda, G-I-O-R-D-A. Elle s'appelle « Les deux oursons ». Dans les tout premiers jours du printemps, là-haut dans la montagne, chez Papa Ours et Maman Ours, deux oursons viennent de naître. Ils sont tellement mignons que leurs parents répètent tout le temps
« Oh, s'ils pouvaient toujours rester petits !»«
Ils sont tellement gentils comme ça !» Au début de l'été pourtant, les deux oursons commencent à marcher et Papa Ours se met à grogner.
« Broum, broum, broum !»« Ça y est, maintenant qu'ils savent marcher, ils vont aller faire les fous dans la forêt !»
Peu après, les oursons commencent à parler et Maman Ours grogne à son tour.
Broum, broum, ça y est, maintenant qu'ils savent parler, ils vont dire des mots pas jolis jolis, des petits gros mots et même des gros gros mots peut-être.
Et les parents ours soupirent ensemble.
Ils sont tellement gentils.
Quand ils sont tout petits.
Un jour, Papa Ours rapporte de la forêt un gros gâteau de miel. Ils le mangent tous les quatre à belle langue et Papa Ours raconte à ses oursons.
Pour avoir ce gâteau, je suis monté jusqu'au sommet d'un arbre, tout là-haut, 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 et j'ai bien failli me casser le cou.
Et Maman Ours grommelle.
Allons, allons, ne leur raconte pas ça, tu vas leur donner envie d'y aller.
Elle n'a pas fini de parler qu'une abeille se met à tourner autour du gâteau en bourdonnant. Et elle lui pique le bout du nez. Et voilà Maman Ours qui dit un mot. Pas joli, joli, un petit gros mot. Parce qu'elle a très mal.
Papa Ours se met à crier. Mais tais-toi donc! Tu ne vois donc pas que les petits écoutent ?
C'est vrai. Les oursons ont tout entendu. Alors, le lendemain, ils veulent s'en aller dans la forêt, décrocher un gâteau de miel tout en haut d'un arbre. Ils demandent la permission à leurs parents. Mais Papa Ours refuse tout net.
Vous êtes encore trop petits. Vous allez vous casser le cou.
Les deux oursons ne sont plus mignons du tout. Ils insistent, ils discutent, ils crient, si bien qu'ils reçoivent chacun un coup de patte sur le nez. Et les voilà qui disent leur premier mot. Pas joli, joli, pas joli du tout. Un petit gros mot. Et peut-être même un gros, gros mot. Maman Ours s'écrie.
J'en étais sûr. Pourquoi leur as-tu raconté comment tu récoltes le miel ?
Et Papa Ours répond. Et toi, quand l'abeille t'a piqué, pourquoi as-tu dit un mot pas joli, joli ?
Papa Ours et Maman Ours continuent à crier comme deux vieux ours grognons. Pendant ce temps-là, les oursons se sont faits tout petits dans un coin et il pleure très fort. Alors, papa ours et maman ours en oublient de se disputer. Et il les console en les berçant tout doucement.
Ne pleurez pas, petits oursons.
Nous vous aimons tellement quand vous êtes gentils. Les deux oursons promettent de rester bien sagement à la maison. Ils continuent un peu de pleurer pour être encore un peu consolés. Papa ours et maman ours leur disent
« Ne pleurez plus, gentils oursons !»«
Vous êtes si mignons quand vous êtes tout petits !»
Alors les oursons jouent dans la maison à de petits jeux tranquilles. Pourtant, en grandissant, ils ont de plus en plus envie d'aller dans la forêt. Un matin, pendant que maman ours est occupée dans la maison, ils sortent en cachette et ils suivent leur papa qui s'en va dans la forêt. Ils ont très envie de faire comme lui, alors ils mettent leurs pattes dans les traces de ses pattes. Ils s'arrêtent quand ils s'arrêtent et ils regardent ce qu'ils regardent. Papa ours regarde un arbre creux, il plonge sa grosse patte dans le tronc pour chercher un gâteau de miel. Il est très occupé et il n'entend pas arriver
un gros ours noir qui veut sûrement le bon gâteau de miel, lui aussi.
Les deux oursons n'hésitent pas. Ils grimpent à un arbre le plus vite qu'il pleuve et tout d'un coup, bien ensemble, tous les deux, badaboum, ils se laissent tomber sur le dos de l'ours noir en criant tous les mots pas jolis, jolis, pas jolis du tout, des petits gros mots et même des gros mots qu'ils connaissent. Et même, ils en inventent quelques-uns. En entendant tous ces vilains mots-là, papa ours se précipite. L'ours noir se voit attaqué de tous les côtés et il se sauve sans attendre. Alors, papa ours dit à ses enfants,
heureusement que vous étiez là. Je n'avais pas entendu l'ours noir. Il m'aurait sûrement chipé, volé, emporté le gâteau de miel. Vous criez comme de vrais ours maintenant.
Et ils ramènent tous les trois un beau gâteau de miel à maman ours. Elle crie aux deux oursons.
Où étiez-vous, galopin, petit voyou?
Et les deux oursons répondent.
Nous étions sur le dos de l'ours noir, il voulait nous chiper le miel.
Et papa ours ajoute.
Ils lui ont crié des mots, pas joli, joli, vraiment pas joli du tout. Des petits gros mots, et même des gros mots. Ha ha! L'ours noir a eu peur et il s'est sauvé à toutes pattes.
En entendant cela et en léchant le bon miel qui coule du gâteau, maman ours se radoucit et elle dit à papa ours.
Les voilà grands maintenant et ils sont encore plus mignons, nos deux oursons.
La troisième histoire s'appelle L'ogre. Elle est de Marie-Hélène Delval, D-E-L-V-A-L, 1991. Qui habite au fond de la forêt, sur cette sombre colline, dans cet énorme château? C'est un ogre. Un ogre timide et malheureux. Il pense qu'il n'est pas vraiment un ogre parce qu'il ne mange jamais d'enfants. Quand il était petit, sa maman lui a raconté une horrible histoire d'ogre qui se terminait très mal à cause d'un enfant si petit qu'on l'appelait le petit pousset ou quelque chose comme ça. L'ogre ne se rappelle plus très bien. Il se demande même si l'enfant ne finissait pas par manger l'ogre. Bref, à force d'y penser, l'ogre s'est mis à avoir une peur horrible des enfants. Si bien que le mercredi, le jour où toutes les écoles de la ville voisine sont fermées, l'ogre reste derrière les murs de son château. Il a bien trop peur de rencontrer un enfant égaré, perdu dans la forêt. Or justement, ce mercredi-là, Babette et Jojo se promènent dans la forêt. Évidemment, ils se perdent et ils arrivent juste devant la porte du château de l'ogre. Jojo dit « J'ai drôlement faim si on entrait là. Quelqu'un nous donnerait peut-être à goûter. » Babette répond « Y a qu'à essayer. » Et voilà Babette et Jojo qui poussent l'énorme porte de l'énorme château de l'ogre. La porte s'ouvre, Babette et Jojo entrent. D'abord, les enfants ne voient rien du tout parce qu'il fait très sombre dans le château. Puis leurs yeux s'habituent et Jojo siffle entre ses dents. « Dis donc, qu'est-ce que c'est grand ?» Babette ajoute. « On voit de la lumière sous la porte là-bas. Il y a sûrement quelqu'un. » Babette et Jojo s'approchent et ils collent l'oreille contre la porte. Alors ils entendent un bruit de tasses et de petites cuillères.
Puis une grosse voix qui dit « De la myrtille ou bien de la mûre ?»
Jojo cligne de l'œil et dit « Ça sent la confiture !» Babette cligne de l'œil et elle dit « Je crois qu'on arrive au bon moment !» Alors il pousse la porte. Et il se trouve nez à nez avec l'ogre, qui tient son grand couteau à la main.
Babette et Jojo s'écrient « Un ogre !»
Et l'ogre s'écrie
« Deux enfants !»
Et il se met à trembler si fort qu'il lâche son couteau. Puis il grimpe tout en haut d'un escabeau et dit d'une toute petite grosse voix « Non, non, ne mangez pas !»
Babette et Jojo n'y comprennent rien. Mais l'ogre tremble si fort que Babette dit gentiment « Descendez, monsieur l'ogre, vous allez tomber. » L'ogre fait non de la tête.
Alors Jojo prend son air le plus raisonnable et il dit « N'ayez pas peur, voyons. Les enfants ne mangent pas les ogres. »
Et Babette ajoute « Quelle imprudence. Ce sont les ogres qui mangent les enfants. »
Et l'ogre répond très vite « Non, non, moi je ne mange pas les enfants. Jamais, jamais. » En baissant la tête, il dit tout bas
« Je ne suis pas un vrai ogre. »
Babette hausse les épaules. « Pouh, ça veut rien dire. Tenez, il paraît que toutes les filles aiment la glace à la vanille. Eh ben moi, je n'aime pas ça. Je suis quand même une fille. »
Jojo ajoute.
« C'est comme moi. Il paraît que tous les garçons adorent les gâteaux au citron. Eh ben moi, j'aime pas ça. Je suis quand même un garçon. »
L'ogre commence à être rassuré. Il descend de l'escabeau. Mais juste comme il pose le pied par terre, voilà Jojo qui ramasse le couteau. Aussitôt, l'ogre se précipite sous la table et il recommence à trembler.
Babette soulève la table et elle dit « Ne restez pas là, monsieur l'ogre, vous allez vous salir. »
Jojo ajoute « N'ayez pas peur, monsieur l'ogre, j'admire seulement votre couteau.
Ah, c'est un vrai couteau d'ogre !»
Cette fois, l'ogre est un peu honteux.
Il sort de dessous la table et dit très vite « Oh, vous savez, je ne m'en sers que pour couper mon pain. »«
Ça tombe bien, » dit Babette. « Justement, nous avons très faim et vous avez là un beau gros pain. »
Jojo ajoute d'un air malin. « Chez vous, ah, ça ne sent pas la chair fraîche, mais ça sent rudement bon la confiture. »
Cette fois, l'ogre sourit timidement.
Oh oui, j'aime beaucoup les confitures. Je les fais moi-même, vous savez. Vous voulez y goûter ?
Les enfants crient en même temps. Oh oui, oh oui ! Et ils s'installent tous les trois autour de la table. L'ogre prend son grand couteau. Il taille deux énormes tartines. Sur l'une, il verse tout un pot de confiture d'abricots et il la donne à Babette. Sur l'autre, il verse tout un pot de confiture de mûre et il la donne à Jojo. Puis il taille pour lui des tartines encore plus énormes et il les engloutit une à une, d'un coup en jetant chaque fois dans sa bouche le contenu entier d'un pot de confiture de prune, de pêche ou de groseille. Parfois, il avale même le pot avec, sans s'en apercevoir. Les enfants applaudissent. « Bravo, bravo! Vous avez vraiment un appétit d'ogre !» Cette fois, l'ogre se met à rire. « Oh, 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 oh !» Il commence à se sentir très bien avec ces enfants-là. Jojo s'essuie la bouche et dit en regardant les énormes poutres du plafond. « Vous habitez un véritable château d'ogre !» Babette s'essuie la bouche et elle dit en regardant les pieds de l'ogre. « Et vous portez aussi. Vous faites du combien à l'heure avec ça quand vous courez dans la campagne ?» L'ogre s'essuie la bouche et il répond.
« Je ne sais pas, dans les 120, 130 à l'heure, je pense. »
Jojo ajoute. « Je suis sûr que si vous nous prêtiez vos bottes, elles nous iraient très bien. »«
Vous croyez ?» dit l'ogre. « Vous voulez les essayer ?»
Babette et Jojo crient en même temps. « Oh oui ! Oh oui !» L'ogre enlève ses bottes. Il donne la botte gauche à Jojo, la botte droite à Babette. Les enfants filent chacun un pied dans une botte et voilà. Les bottes leur vont très bien. Jojo s'écrie, vous voyez, elles sont magiques. Ce sont de vraies bottes d'ogre. Ça serait chouette si on pouvait faire un tour avec. L'ogre se lève et dit,
j'ai une idée. Au grenier, il y a les bottes de mon grand-père et celles de mon père. Si j'allais les chercher, on pourrait faire une balade ensemble.
Et l'ogre disparaît dans l'escalier. En l'attendant, Babette et Jojo s'entraînent à sauter par-dessus la table à cloche-pied. Hop-si, hop-là ! Jamais ils ne se sont autant amusés. L'ogre redescend du grenier avec une paire de bottes sous chaque bras. Jamais il ne s'est senti aussi heureux. C'est depuis ce jour que tous les mercredis, on peut voir un ogre et deux petits-enfants enjamber les villages, les collines et les forêts, et toute la journée, on entend résonner au-dessus de la vallée un grand, un vrai,
un énorme rire d'ogre.
Collection Les belles histoires, série bleue, fin de la première face de la première cassette.